RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, bon week-end avec RMC, et oui ça y est, il est enfin là ce week-end. Et alors même si on a une pensée pour tous ceux qui travaillent bien sûr, en ce samedi matin, bref, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue sur RMC. Le week-end des experts avec un week-end un peu particulier puisque vous le savez, c'est un week-end de Grand Prix, le Grand Prix d'Australie que nous suivrons en direct en intégralité. Alors demain, il va impacter pas mal quand même hein, nos rendez-vous du dimanche puisque on commencera notre rendez-vous auto aux alentours des 8h10, 8h15 demain dimanche. Donc on aura quand même pratiquement 2 heures d'automobile avec Jean-Luc et le Grand Prix qui commencera donc aux alentours des 6h. Et en ce samedi matin, pas de rendez-vous maison puisque on vivra les essais qualificatifs de ce Grand Prix d'Australie entre 7h et 8h. On retrouvera malgré tout la Formule Santé avec Christian Ricciat, la vie numérique avec Raphaël Grabli, et pour débuter, et ce comme d'habitude jusqu'à 7h, heure à laquelle commencera ces essais qualificatifs, eh bien Patrick Mulan est là pour le jardin. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous, très bienvenue au jardin qui s'achemine, on va dire,
tranquillement
voilà. Vers le printemps.
Voilà, rappelons que dans quelques jours, ça y est, on sera officiellement au printemps, en tout cas dans le calendrier. Après, côté météo et climat, ça, il va falloir affiner. Patrick, on va passer une heure ensemble. Les questions, 32-16. Dans quelques instants, on aura Laurence qui va nous parler de ces deux châtaigniers. Notre sujet de ce samedi matin, on parlera de permaculture. Tiens, voilà un mot à la mode.
Oh là là, c'est un mot... presque irritant tellement on l'entend sous tous les angles que c'est presque devenu une religion pour certains. Enfin bon voilà, on va quand même expliquer ce que c'est. Bon, vous verrez que moi je suis pas un grand fanat de tout ça, mais nous sommes très ouverts sur RMC et donc on parle de tout. On essayera quand même de comprendre à quoi ça sert. C'est une bonne base, c'est bien au départ. Bon après il faut voir comment ça fonctionne. Voilà. Mais il y a des choses à dire.
Voilà. Bon bah si vous voulez réagir sur la permaculture, allez-y hein. 32-16, l'appli RMC et Direct Studio. On retrouvera aussi que faire au jardin ce week-end. Et évidemment, il y a de plus en plus de choses à faire, hein, forcément. Hein. C'est clair, il faut préparer quand même le jardin à tous les beaux jours et à toutes les belles choses qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis vos coups de cœur. Coups de cœur et coups de gueule, tiens, Patrick, cette semaine. Hein.
Oui, parce que comme on parle de permaculture, je vous ai sélectionné 3 livres sur la permaculture. Il y en a un qui est un vrai coup de cœur, il y en a un, c'est mitigé, et puis l'autre, c'est carrément le coup de gueule. Quoi.
Voilà. Ben voilà, ce sera tout à l'heure, en toute fin d'émission. Merci d'être avec nous. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, votre rendez-vous jardin du week-end sur RMC avec Patrick Mulan. On vous attend. Laurence dans quelques instants, mais auparavant, eh bien, c'est notre conseil de l'expert de ce samedi matin. Vous allez nous donner, Patrick, quelques conseils pour réussir nos semis printaniers.
Oui, parce que la semaine dernière, on a parlé de choix des graines, comment choisir ses graines, pourquoi faire confiance aux variétés nouvelles, modernes, etc. Quels sont les hybrides? Mais maintenant, on va essayer de donner des conseils pour réussir justement ces semis, le semis étant la répartition des graines dans un milieu favorable à la germination.
Alors, quels sont les avantages qu'il y a à semer plus tôt que d'acheter, par exemple, des plants prêts à mettre en place?
C'est essentiellement un avantage économique, d'abord. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher de semer que d'acheter des plants tout faits, ça c'est logique. Bien qu'il y a des différences colossal de prix dans les graines et que je voudrais quand même vous alerter sur une chose, c'est que on vend dans le commerce des sachets de graines qui ont l'air d'être tous pareils. Mais si vous regardez très attentivement, vous verrez que dans les sachets de même dimension, vous pouvez avoir des rapports pratiquement de 1 à 100 en nombre de graines, par exemple.
Ouais.
Avec des rapports de prix qui vont de 1 jusqu'à 40.
Ouais, c'est dingue.
Parce que, justement, on a parlé la semaine dernière des hybrides. Par exemple, sur un chou hybride, ou une tomate hybride, il y en a encore plus, vous allez avoir peut-être 25 graines pour parfois 10 euros. Alors que sur une tomate basique style marmande, vous allez avoir peut-être 1200 graines pour 2 euros.
Mmh.
Mais c'est pas le même fruit, à la fin, voilà.
Patrick, on voit écrit au dos des sachets de graines, et selon les cas, peut-être l'avez-vous remarqué d'ailleurs, vous qui nous écoutez, semer en place ou semer en pépinière, c'est quoi la différence?
Ah ben, elle est colossale, c'est-à-dire que le semis en place, comme son nom l'indique, c'est que vous allez mettre les graines à la place où la plante va se développer entièrement.
D'accord.
Ça, c'est utilisé pour certains légumes, notamment les légumes racines. Pourquoi ? Parce que les légumes racines, il faut pas les repiquer. Faut, une fois que la graine a germé, il faut que la racine puisse aller le plus droit possible. Une carotte qui est toute fourchue, c'est pas terrible. Ouais. Donc en fait, voilà. Ça, c'est le semis en place. Le semis en pépinière a pour but, en fait, d'obtenir des petits plants que l'on repiquera par la suite. Ça se fait par exemple sur tout ce qui est, ben justement, on parlait des tomates, mais aussi les salades. Voilà, ce sont des plantes. Il y a beaucoup de fleurs aussi qui sèment en pépinière. Mm-hmm. Toutes les fleurs un peu sophistiquées, style œillet d'Inde, tout ça, ça sème en pépinière. Alors que on l'a pas dit non plus tout à l'heure dans les avantages du semis, c'est que vous avez à votre disposition un éventail de variétés et même d'espèces que vous ne trouvez pas autrement. Mmh. Parce que, par exemple, alors même si on en trouve maintenant un tout petit peu, mais des plantes cosmos, c'est un peu idiot, quoi. Parce qu'en fait, c'est une, vous jetez les graines et puis ça lève tout seul. Les malopes, les escolzias, les pavots de Californie, ce sont des plantes qui sont, les clarkias, tout ça, des chrysanthèmes des moissons. Bah, hop, on jette les graines et ça lève tout seul. On n'achète pas de plants. Mmh. Donc ça aussi, c'est important au niveau du semis.
Alors, Patrick, on a acheté nos petits sachets de graines, tout va bien. Est-ce qu'on doit effectuer une préparation spéciale de ces graines avant le semis ?
Alors d'une manière générale, pas forcément, sauf que vous avez des récalcitrants. Et notamment, je vais vous dire, un petit secret de jardinier, c'est que le persil, vous avez tout intérêt à faire tremper les graines dans de l'eau, on va dire autour de 25-26 degrés, pendant toute la nuit qui précède le jour du semis. Parce que ce sont des graines qui ont besoin de se ramollir un petit peu. Quand vous avez des graines d'arbres ou d'arbustes, en général, on les fait tremper, parfois même jusqu'à 72 heures, parce que certaines sont très très dures. Et ça va, par exemple, sur certaines plantes exotiques, jusqu'à être obligé de râper, voire même parfois de lacérer la graine tellement elle est dure.
Très bien. Quelles sont les opérations de préparation du sol à effectuer justement avant le fait de semer?
Alors on va commencer par décompacter la terre. Alors soit vous la bêchez, je sais que ça fait hurler certains, moi je suis désolé, le bêchage ça fait 10 000 ans qu'on le fait et ça marche très bien. C'est pas la peine d'aller creuser en profondeur. Non, vous faites un petit labour superficiel pour décompacter tout ce monde-là, vous passez la griffe, vous ratissez, mais là on s'arrête là. On n'incorpore pas d'engrais, c'est inutile pour le semis, et on ne met pas non plus d'amendement, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre du compost maintenant, alors que c'est pas encore totalement décomposé, il faut aller le faire avant. Hein, ça, c'est important. Ensuite, vous pouvez, alors tout le monde ne le fait pas, mais ça serait prudent, d'attendre une dizaine de jours avant de faire le semis, donc de faire toute cette préparation du sol avant. Pourquoi ? Pour que les graines qui sont dans le sol d'herbes sauvages ou que les oiseaux ou que le vent nous apporte en ce moment, bah germent et puis vous permettent de les éliminer rapidement puisque on n'utilise bien sûr plus d'herbicides maintenant. Et donc les graines doivent être sur un sol souple, léger et avec un petit coup de râteau, mais alors superficiel, on caresse le sol tout doucement pour terminer ce qu'on appelle un lit de semences. Il faut que ça soit aussi régulier que possible.
Laurence est avec nous au 32-16. Alors là, on change carrément de sujet. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bienvenue Laurence.
Bonjour Laurence.
Bienvenue, merci.
Vous nous appelez de quel endroit, chère Laurence ?
Alors, je suis dans l'Eure, mais dans le sud de l'Eure, c'est-à-dire je suis à la limite du Calvados et de l'Orne.
Ah, bah c'est bien par là. C'est déjà la Normandie, alors ?
Oui, et là, oui, la pleine campagne normande.
Waouh, c'est chouette. Et vous avez deux châtaigniers ?
Voilà, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, sur le premier, je voulais juste savoir un petit peu comment on pouvait tailler, ce que vous avez entendu la semaine dernière.
Oui, parler. Alors, notre producteur Gilles m'a donné son portable, donc je vois les photos que vous lui avez envoyées.
Voilà.
Pourquoi vous voulez le tailler ?
Disons que j'ai les branches vers le bas qui sont un peu gênantes, donc je voulais savoir si je pouvais couper un petit peu.
Oui, alors ça,
pour faire un peu.
Vous voulez monter le tronc ?
Voilà, exactement.
Oui, alors ça pose aucun problème, hein, donc vous pouvez les retirer, bien évidemment, parce que sur ce que je vois sur la photo, vous avez une ramure d'arbre qui est assez équilibrée, qui est plutôt un bel arbre. Alors évidemment, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter de laisser les branches qui vont vers le bas. Quand une branche se met à pousser la tête vers le sol, c'est jamais bon signe. Et puis ça produira pas quelque chose de très intéressant. Alors ça, c'est d'accord. Encore plus valable sur les vrais arbres fruitiers. Enfin, quand je dis les vrais arbres fruitiers, les châtaignes sont aussi des fruits qu'on consomme, mais les arbres fruitiers classiques, style pommier, poirier, prunier, cerisier, d'accord, etc., quand vous avez des branches qui redescendent vers le sol, vaut mieux les éliminer, parce qu'en général, ça donne rien de très très bon. Voilà, mais sinon, moi, je ferais rien, hormis peut-être, alors on voit à certains endroits, vous avez des branches qui partent pratiquement du même endroit, donc là, vous pouvez en laisser qu'une sur les deux pour aérer un peu la ramure, mais votre châtaignier, là, il n'est pas suffisamment vieux pour nécessiter vraiment une intervention un peu drastique.
D'accord, ok. Oui, comme il est jeune... Une petite coupe
de voilà, vous voilà. Pouvez, mais il n'est pas déséquilibré, parce que souvent chez les jeunes arbres, ce que l'on fait au niveau de la taille, c'est de ramener les proportions. Quand vous avez un côté qui pousse plus vite que l'autre, bon ben on va rééquilibrer. Si vous avez beaucoup de branches aussi qui poussent vers le milieu, là vous pouvez en éliminer quelques-unes de manière à aérer. Mais ce que je vois, bon évidemment, vous avez fait une photo en ce moment, il n'y avait pas encore de feuilles, donc on voit très bien la ramure. Moi, elle me semble plutôt assez bien, quoi. Voilà.
D'accord. Et puis donc pour le deuxième, donc je les avais achetés en même temps. Et le deuxième, donc l'année d'avant déjà, il commençait à mourir. Et l'année dernière, la tête était carrément arrêtée. Par contre, je vois que j'ai des gies au pied. Donc je voulais savoir, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai un espoir que on puisse redémarrer du pied, ou est-ce que c'est vraiment fichu, il est bon à abattre?
Ah, je sais pas s'il est bon à abattre, ça se voit pas sur la photo. Il était complètement grillé.
Ah, il était à sec, il m'a pas fait un seul fruit, et là j'ai encore regardé aujourd'hui, les branches elles cassent toutes seules, on voit que vraiment il y a rien. Par rapport à l'autre où on voit déjà les gies se former, lui on voit que rien ne se fait.
Le problème, parce que ça je peux pas le savoir uniquement sur la photo, c'est qu'effectivement vous avez des rejets au pied, oui. Mais est-ce que ces rejets sont le porte-greffe, ou est-ce que les rejets sont la variété, ça je ne sais pas. Ça dépend où aura été fait la greffe, parce que bon, quand on achète un châtaignier, donc la châtaigne en fait c'est un marron, pas un marron de marronnier, mais ce qu'on appelle le marron, c'est la châtaigne sauvage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la bogue, vous avez soit un ou deux fruits, mais en général de petite taille. Et ce qu'on appelle la châtaigne, c'est une variété améliorée, donc de châtaignier, et donc qui ne donne plus des marrons, mais qui donne des châtaignes, donc des gros fruits. Et c'est ce qu'on cherche. Donc évidemment, si vous bouturez, parce que là, les rejets, je sais pas trop ce que vous pouvez en faire, soit les ressortir et faire une sorte de séparation de touffe si vous arrivez à les sortir avec un peu de racines. Sinon, c'est les utiliser comme bouture. Mais là, on est tard pour faire de la bouture à bois sec. Donc, il faudrait mieux peut-être les laisser pousser cette année, et puis les utiliser comme bouture à l'hiver prochain.
Merci pour tous ces conseils.
Eh bien, Laurence, bonne journée à vous. Merci.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, Laurence. Et si, tout comme Laurence, vous voulez joindre notre spécialiste jardin, vous savez que c'est très simple. Le 3216, c'est le standard RMC. Vous pouvez poser votre question. Encore plus simple, l'appli RMC si vous avez un smartphone, et Direct Studio. Votre petit message, votre numéro de téléphone, et on peut vous rappeler très vite. On revient dans un instant. À tout de suite, c'est RMC.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Un excellent week-end avec nous. Je vous rappelle qu'à partir de 7h, vous retrouverez les essais qualificatifs du Grand Prix d'Australie jusqu'à 8h10 à peu près. Et puis ensuite, on enchaînera, on reprendra le cours normal de ce week-end des experts avec le docteur Christian Akia qui sera là. Et puis Raphaël Grably, donc pas de Christian PC, pas de maison exceptionnellement ce samedi. Et pour l'instant, nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan. Patrick, attention, polémique. On va s'intéresser à un sujet vraiment qui est très à la mode actuellement. Hein. C'est notre sujet de cette semaine. Que pensez vraiment de la permaculture? Puis vous allez un petit peu nous expliquer ce que c'est, hein, forcément.
Bah, actuellement, on a l'impression de ressentir une sorte de révolution culturelle au propre et au figuré, à la fois dans les méthodes de culture, mais aussi même dans la manière de réfléchir avec des gens qui sont engouffrés là-dedans et qui sont devenus quasiment des intégristes qui viennent, on va dire, pratiquement agresser les jardiniers traditionnels. Alors moi, je veux être extrêmement tolérant. Les gens qui pratiquent la permaculture, ils ont leur raison et c'est tout à fait respectable.
Oui, bien sûr.
Mais les jardiniers un peu classiques comme moi, qui jardinons depuis quand même des décennies, et puis mes ancêtres avant moi, on n'a quand même pas, contrairement à ce qui se raconte, qui est une ineptie, on n'a pas bousillé la planète, hein, je suis désolé, ça tourne encore, et puis elle tournera encore après nous. Mmh. Donc on est à un autre regard, aujourd'hui, effectivement, qui est plus naturaliste, qui est plus global, qui est intéressant, et qui, effectivement, ça s'appelle la permaculture.
Alors moi, je vais peut-être commencer par les bases, Patrick. Qu'est-ce que c'est que la permaculture ?
Alors, c'est à la fois une philosophie, parce qu'en fait, l'idée, c'est de quoi ? C'est de transformer notre environnement, notre jardin, en un véritable écosystème. Et ça, c'est pas une révolution, c'est pas nouveau. On a tous envie, effectivement, que ça fonctionne comme ça. Et pour cela, il y a des techniques, des pratiques. Et peut-être que ce qui est un peu plus révolutionnaire, c'est d'avoir une vision globale avec un regard qui est un peu à l'envers, effectivement, de ce qu'ont été les jardiniers jusque-là. À savoir que le jardinier ne va plus essayer de contrôler la nature, de la domestiquer, si je puis dire, mais va essayer de la comprendre au mieux pour s'intégrer dans son fonctionnement. En fait, c'est la nature qui commande et l'homme qui est à son service. Alors que jusque-là, les jardins qu'on a créés, notamment les jardins classiques, bien léchés, bien droits, etc., étaient plutôt une sorte de... Alors, il y en a qui disent même carrément d'asservissement de la nature, mais ça peut se voir aussi autrement, voilà.
Est-ce que la permaculture, Patrick, est un concept ancien ?
Pas tellement, parce qu'en fait, c'est une méthode qui a été... la théorie de cette méthode a été créée en 1978 par des Australiens. On parlait du Grand Prix d'Australie. Il s'appelait Bill Mollison et David Holmgren. Alors, il y en avait un qui était biologiste, l'autre qui était plus un philosophe. Et ils ont créé un bouquin qui s'appelait Permaculture One. Et ce terme, donc, voulait dire, en fait, au départ, l'agriculture permanente. On entend bien ça. Mais il a été vite étendu, on va dire, pour signifier la culture de la permanence. C'est pas tout à fait la même chose, hein, donc avec des aspects sociaux qui sont rentrés là-dedans pour faire un système comme on voit aujourd'hui qu'on appelle durable. Donc la permaculture, c'est pour ça que moi je me distancie un petit peu avec ça, c'est que ce sont pas que des techniques et qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait une philosophie, voire même un mode de vie.
Très bien. Est-ce que la permaculture a une différence avec le jardin bio ou un jardin au naturel, en fait ?
En fait, le jardin bio ou les méthodes de culture au naturel vont être intégrées dans les méthodes de permaculture. Parce que là, bien évidemment, on va utiliser uniquement des produits issus de la nature. Mais, encore une fois, on est dans un concept plus global. En fait, c'est l'art de concevoir un écosystème qui va respecter le fonctionnement de la vie. Et ce qui est très très compliqué en pratique, c'est de positionner judicieusement les différents composants du jardin de manière à ce qu'ils se rendent mutuellement service. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Enfin, cette complexité-là, elle n'existe pas dans le simple jardin bio, qui est bio, c'est une méthode simplement de travailler au naturel. Donc, on est dans quelque chose de plus complexe, de plus total, on va dire. Voilà.
À quelle catégorie de jardin s'adresse la permaculture ? Tous les jardins peuvent être faits en permaculture ou pas ?
Alors, il y a même, on verra tout à l'heure dans les coups de cœur, il y a un livre qui vient de sortir sur le balcon en permaculture. Mais la permaculture, c'est quand même une idée de jardin nourricier. C'est un jardin qui doit être productif. Je dirais pas qu'on a viré l'esthétique, mais elle est pas aux premières loges. On fait pas un jardin d'ornement en permaculture.
Il faut que ce soit un jardin qui serve à quelque chose.
Voilà.
C'est ça?
Faut que ça serve à vous nourrir surtout.
Hein. C'est ça. D'accord.
C'est pas
d'ornement.
Ben oui, on n'est pas là pour le plaisir de l'homme. Mais en même temps, c'est un peu aberrant. Parce que, on va faire avec la nature et quasiment pour elle. Alors qu'en fait, on l'exploite puisque on veut qu'elle nous nourrisse. Et là, moi, je suis plus tellement d'accord avec justement cette philosophie-là, parce que soit on fait quelque chose de très naturel, et à ce moment-là, on laisse de la végétation spontanée, on favorise, dans la permaculture aussi, les oiseaux, etc., mais on n'essaye pas de l'exploiter, puisqu'à partir du moment où vous voulez qu'elle vous nourrisse, de toute façon, vous avez exploitation. Bon, après, peut-être qu'on joue sur les mots, mais en tous les cas, sachez que les cultures vivrières sont privilégiées, elles peuvent être associé à des fleurs dans la permaculture, mais dans un but plus d'attirer les pollinisateurs ou de jouer les plantes compagnes, plutôt que de vous faire plaisir pour leur beauté.
Nous avons José au 32-16, et on poursuivra après sur toutes ces infos passionnantes sur la permaculture. Et José qui a une question justement sur ce sujet. Bonjour José.
Bonjour José.
Oui, bonjour à toute l'équipe, ça va?
Et vous sûr. José, tout va bien?
Impeccable, impeccable.
Bon, j'espère que vous apprenez des choses ce matin sur la permaculture avec Patrick. Et on vous écoute. Quelle était votre question?
Alors, moi, je découvre la permaculture. Jusqu'ici, je n'en ai jamais entendu parler. Et j'aurais voulu savoir que permaculture sous forme de but. Voilà ma question.
Bah, ça, c'est une des techniques.
C'est utopie, je ne sais pas. Voilà, les buts.
Les buts, notamment les buts forestiers, qui sont un des concepts, on va dire, techniques de la permaculture, parce que vous avez aussi la culture en lasagne, vous avez plein de choses comme ça. Bon, après, ça dépend comment est la configuration de votre terrain. Parce que, au départ, pour faire une butte, on met des grosses bûches de bois, des morceaux de bois, des fagots. Après, on va mettre de la terre, après, on va mettre du carton, après, on va empiler ça comme ça. Bon, j'en ai vu fonctionner, mais moi j'ai pas assisté, si vous voulez, ou j'ai pas été convaincu sur la durabilité du système. Bon, parce que il est vrai que l'avantage de faire une butte, et notamment basée sur des morceaux de bois, c'est que vous allez créer un écosystème extrêmement drainant. Et ça, dans les régions où il pleut beaucoup, par exemple, ou si vous avez même, d'ailleurs, un terrain, comme on parlait tout à l'heure, le terrain normand qui est assez glaiseux, etc., là, ça va vous permettre de cultiver beaucoup de plantes qui n'auraient pas fonctionné dans le terrain de base. Bon. Derrière ça, vous avez un autre avantage sur la butte, c'est que au niveau purement de votre dos, on va appeler à la rescousse le docteur Reca, mais le jardinage est quand même agressif sur le dos. Hein, on dit souvent, à un certain âge, la terre est basse. Bah là, vous faites une butte, donc vous avez moins à faire d'efforts pour accéder à votre culture. Mm-hmm. Bon, après cela, il faut quand même savoir que vous êtes sur un milieu que l'on dit ou que l'on veut naturel, mais qui en réalité est totalement artificiel, puisque c'est vous qui l'avez fabriqué, et que ce milieu évolue. Et notamment le bois, alors ça se fait pas tout de suite, mais ça se décompose, que le bois en se décomposant favorise quand même l'apparition, alors déjà d'insectes éventuels du bois, qui sont pas forcément des insectes tout mignons, parce qu'ils mangent pas que le bois mort, ils peuvent aussi aller attaquer les arbres qui sont à côté. Deuxièmement, vous allez avoir aussi des mycéliums, donc des champignons, qui vont se développer et qui vont, pour certains, avoir un effet plutôt délétère sur les cultures. Franchement, je dirais que la particularité de tout ça, c'est qu'il faut être extrêmement attentif. Il faut avoir quand même une bonne notion naturaliste pour comprendre les phénomènes que l'on observe et comment réagir par rapport au fait que l'on cherche, en fait, dans une permaculture, on cherche quoi ? On cherche à recréer un équilibre naturel. Et ça, il n'y a rien de plus difficile au monde que de faire ce que la nature fait naturellement. Donc vouloir le faire soi-même, je peux vous dire que c'est vraiment coton. Et dès que le moindre petit grain de sable rentre dans le système, eh ben là, c'est les catastrophes qui s'enchaînent. Donc globalement, la permaculture, oui, la butte, pourquoi pas, mais plutôt pour les jardiniers un peu costauds, quoi.
Oui, c'est ça.
Et qui ont du temps, qui ont de la connaissance et du temps.
Ok, bien.
Voilà José.
Mais merci.
Merci à vous.
Très bien.
Mais initiez-vous, à la limite, faites-en pas une trop grande. Ça aussi, je voudrais dire à tout le monde, si vous voulez vous initier sur des nouvelles techniques comme ça, c'est de pas se mettre à dire « Ah, tout mon jardin, je le transforme !» Parce que là, vraiment, vous allez avoir... Ah, c'est vrai qu'on vous dit que la permaculture, c'est une vision globale, mais faites-en d'abord un petit bout pour essayer de voir comment ça peut fonctionner, pour que vous appreniez les choses. Et il y a rien que le terrain... qui est de supérieur à cela, c'est-à-dire l'observation, parce que votre permaculture à vous, ce ne sera pas celle du voisin. Ouais.
Patrick, pour conclure sur ce sujet, à votre avis, la permaculture, c'est une bonne idée. Est-ce que ça fonctionne, tiens ? Voilà, pour conclure.
Franchement, moi, je n'ai jamais rien vu de génial là-dedans. Et surtout de durable, parce qu'en fait on l'inscrit normalement comme un système durable. Mmh. Et moi, ce que j'ai vu en permaculture jusqu'à présent, c'est des trucs qui fonctionnaient un peu pendant une saison, et après ça se dégradait. Bon, moi qui suis quand même un vrai passionné de jardin esthétique, de d'art paysager, de décoration végétale, etc. Franchement, je m'y retrouve pas, parce que la plupart du temps, les jardins en permaculture sont moches, et on l'a bien vu, l'esthétique c'est pas le but. Après, pour ceux qui veulent produire, en plus, oui, je dirais que moi, ce que j'ai pu voir, et souvent, alors là, dans les jardins familiaux dans lesquels je circule très très régulièrement, ceux qui cultivent en traditionnel, ils récoltent beaucoup mieux et beaucoup plus que ceux qui sont dans la permaculture. Mais après, c'est une philosophie.
Oui, bien sûr.
Donc, pourquoi pas. Voilà. Mais encore une fois, bon, RMC c'est un espace de liberté. Tout le monde s'exprime, tout le monde a le droit de dire ce qu'il a. Moi, je vais essayer de vous expliquer ce que c'était. Après, mon avis compte pas beaucoup là-dedans.
En effet. On revient dans un instant. On va continuer, tiens, un petit peu sur la permaculture tout à l'heure avec vos bouquins.
Oui, mais là, ça sera simplement sur la qualité des livres.
Exactement. Et puis, que faire au jardin ce week-end? Voilà ce qui vous attend sur RMC. Je vous rappelle qu'on est là chaque samedi, 6h, 7h. Patrick Mulan, notre expert jardin. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h, 7h, votre jardin.
Attention Miu Miu, la question...
Flash, je crois.
C'est bien ça. Ah. Deux minutes pile pour répondre à la question de Jessica de Monaco qu'on a reçue via Direct Studio. Je vous rappelle que sur votre smartphone, c'est très simple de nous envoyer une petite question. Pourquoi les plantes ont-elles des noms latins et qui leur donnent ces noms souvent compliqués, Patrick ?
Bah d'abord parce que la botanique, ça a commencé au XVIIIe siècle et que Carl von Linné qui a inventé la classification binaire, c'est-à-dire genre, espèce, eh bien à l'époque, on parlait latin. Mais c'est pas du latin. La plupart du temps, ce sont quand même des extraits plutôt de racines grecques. Alors, ça a des significations. Quand on essaye de voir un peu ce que ça veut dire, par exemple, ça peut vouloir dire une couleur. Par exemple, cyanea, ça veut dire bleu. Lutea, ça veut dire jaune.
Ah oui.
Bon, ça peut être aussi, et c'est souvent, des noms de copains. Vous avez le magnolia, par exemple. Le magnolia, c'était pour célébrer Pierre Magnol, qui a été un des grands botanistes de ce pays. Il avait créé le jardin botanique de Montpellier. Mmh. Donc voilà, de temps en temps comme ça. Et puis, ça peut aussi vous dire d'où vient la plante. Par exemple, Euonymus japonicus, le fusain du Japon, japonicus. Donc voilà, on a des indications qui sont intéressantes. Après, ça peut être totalement arbitraire ou de façon tellement empoulée que de temps en temps, on n'y arrive pas. Puis il y a des noms qui sont très complexes. Alors du coup, Velvicia, parce que c'est Monsieur Velvich, Lagerstromia, parce que c'est Monsieur Lagerstrom. Vous ne les connaissez pas, il n'y a que le monde de la botanique qui les connaît. Mais ça a un intérêt. Parce que vous pouvez arriver à remonter un petit peu l'histoire et savoir effectivement pourquoi ce monsieur-là lui a donné cette plante. Parce que aussi, souvent, c'est lui qui l'a découverte tout simplement. Et on attribuait donc la plante, souvent plutôt l'espèce que le genre, à la personne qui l'avait découverte. Parce que aujourd'hui, on découvre pratiquement plus rien. Mais encore des botanistes, notamment Patrick Blanc, qu'on a découvert.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Bienvenue à vous. Vous venez peut-être d'arriver sur RMC. Eh bien, sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts jardin. À noter que tout à l'heure, pas de rendez-vous maison avec Christian Pessé exceptionnellement, puisque c'est la Formule 1 qui prend le relais. On vivra ensemble les essais qualificatifs du Grand Prix d'Australie jusqu'à 8h10, 8h15 environ. Et puis après, on reprendra le cours normal de ce week-end des experts avec la forme, la santé et la vie numérique. Dans quelques instants, vos questions au 32-16, les coups de cœur de Patrick. Mais dans l'immédiat, puisque puisque nous sommes le 16 mars 2019, on va jeter quand même un œil à ce qu'il faut faire au jardin cette semaine, Patrick.
Alors, aujourd'hui c'est Sainte Bénédicte, mais c'est aussi Sainte Eusébie. Et on dit, si tu ne sèmes rien à la Sainte Eusébie, tu récolteras pot de zébie.
Oui, ça veut dire
rien du tout.
Oui, pot de zébie, c'est pas beaucoup.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut semer. On est dans une bonne période pour semer. Alors, on va semer au potager pratiquement tout, hein. Les bêtes, les brocolis, les carottes, les céleris, les cerfeuils, le chou rouge, etc. Les épinards, le navet, oignon, etc. En revanche, à la maison, on fait plutôt le basilic. On va faire aussi, pourquoi pas d'ailleurs, sur votre balcon, un petit peu de carottes ou un petit peu de radis dans un grand pot, ça pourrait être quand même assez sympa. Après, on avait parlé donc des techniques tout à l'heure de semis en ligne ou à la volée en place. Eh bien écoutez, vous allez semer à la volée, en place, plein de fleurs, sympa comme tout. Les Alice Odorant, les Belles de Jour, les Capucines, les Clarkia, les Cosmos, les Immortelles, les Juliennes de Mahon. Plein de plantes qui sont très nature dans leur aspect, qui attirent bien les pollinisateurs et qui demandent très peu d'entretien. Alors mon conseil sera, ne semez pas tout le jardin au même moment. Parce que ces plantes-là vont fleurir environ pendant un mois. Donc ça vaut le coup de semer une parcelle et 10 jours plus tard une autre, etc., etc., de manière à étaler les floraisons. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans votre jardin. Il y a des petites bébêtes avec les pluies de mars qui arrivent et qui s'appellent des limaces. Donc, il y a des appâts à placer. Vous savez qu'aujourd'hui, on a donc plus les produits chimiques.
Ça, c'est fini.
Mais on a quand même des produits chimiques naturels, comme le phosphate ferrique.
Qui
fonctionne très bien, à condition de l'utiliser au moins 3 ou 4 jours avant de planter. Si vous mettez des salades, repiquez des salades dans votre potager aujourd'hui et que vous n'avez pas mis, il y a 3-4 jours, les appâts anti-limaces, ça risque d'être un petit peu la galère. Oui, parce qu'en fait, c'est un produit qui bloque l'envie de se nourrir chez la limace. Oui. Mais tant qu'elle l'a pas vraiment absorbée, elle a toujours faim et elle continue à manger vos plantes. c'est un petit peu comme ça. Donc on va aussi au potager buter les pommes de terre. Il y a le moment de faire des greffes. Aussi, on fait des greffes en fente en ce moment, en couronne, etc.
Voilà, il y a plein de choses. N'hésitez pas, profitez-en. Daniel est avec nous au 32-16. Bonjour Daniel.
Bonjour Patrick. Bonjour François.
Bonjour Daniel.
Bonjour Daniel. Vous nous appelez de quel endroit?
De Nantes.
De Nantes. Bravo.
Oui. Voilà.
Et on vous écoute.
Voilà. Je vous ai envoyé une photo parce que j'ai une bonne habitude ou une mauvaise habitude. Non, la bonne, je l'ai. C'est à chaque fois que j'ai une graine, je la mets en terre. Et la mauvaise habitude, c'est que je note pas ce que c'est. Ce qui fait que je vous ai envoyé une photo.
Oui,
parce que
franchement. Voilà. Vous savez, quand j'ai vu la photo sur l'ordinateur, je me suis dit, on dirait une plante en plastique, une fausse, quoi. Donc, j'ai un mal de chien à vous dire vraiment ce que c'est. Et surtout, vous savez, une plante, quand il n'y a pas les fleurs, ou quand il n'y a pas les fruits, de toute façon, la botanique, elle est basée sur les fleurs. Donc, avoir juste une tige avec trois feuilles, parce qu'il y en a plein, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais vous non plus, vous savez pas d'où vous l'avez sorti, ça? Est-ce que c'était un arbuste?
Quand je mange des litchis notamment, je plante.
Alors ça, je peux vous dire, ce n'est pas un plant de litchi.
Voilà, parce que j'ai regardé sur internet et j'ai vu que c'était des feuilles pointues.
Oui, puis en plus c'est plus souple.
Ouais. Et là, ça a passé l'hiver dehors. On a un bonne température en général. Et je l'ai recouverte avec une bouteille en plastique retournée, donc ça a passé l'hiver dehors. Et puis je vois pas. Alors, je vais attendre que ça.
Peu le plaisir du jardinage, c'est-à-dire que là vous allez attendre. Alors, ce que je vois quand même, c'est qu'elle pousse tout en hauteur. Alors, ce qui est quand même pas mal, c'est que vous avez pas, c'est pas dégarni du bas. Donc les feuilles, elles sont partout. Donc là ça va. Mais moi, je ferai un truc quand même, c'est que je la pincerai, c'est-à-dire que je couperai la pousse d'extrémité de manière à l'aider à faire une ramification, parce que sinon, si ça continue à pousser comme ça tout en hauteur, ça fait quand même pas une plante très très esthétique.
J'ai pas osé le faire.
Vous avez pas osé, mais si, faut le faire.
D'accord.
Après. Franchement, en plus, je vais pas être agréable, mais vous êtes pas le meilleur photographe de la planète. Donc,
Oh là là, ça me fait mal.
Daniel, mais ça, c'est pas grave, vous avez sans doute d'autres qualités. Hein, vous
ça
savez.
Ressemble, ouais, ça ressemble quand même à un laurier rose hein, quand on regarde un petit peu de près.
Alors, figurez-vous, non, mais vous faites bien en parler parce que figurez-vous qu'à un mètre de ça, il y a un laurier rose. Est-ce que ça aurait pu une graine de laurier rose qui
Ah bah évidemment ça ah, oui. dans la nature les, surtout vous êtes à Nantes vous dites
Oui mais oui, c'est pas sur la une terrasse,
c'est hein, pas c'est la meilleure région pour le laurier rose mais c'est une région quand même relativement douce actuellement ouais, et donc alors, ça peut le faire. Parce que voilà, on a quand même des feuilles qui sont très oblongues, très étroites et qui ressemblent énormément à celles du laurier rose. Bon, après, ce qui est drôle, ce qui est un peu bizarre, c'est le port extrêmement étroit de la plante. Voilà. Mais bon.
Je vais attendre alors, je crois. Et puis je vous donnerai des nouvelles comme ça. J'essaierai de faire une belle photo et puis de vous l'envoyer.
Bah exactement, mais faut suivre. On va suivre l'affaire. Dès qu'il y a des fleurs, hop, photo.
Mais vous savez que c'est bien ça. Moi, ça me plaît bien que vous commentiez les photos comme ça des auditeurs que vous recevez. C'est cool.
Oui, mais c'est
ça. Donc n'hésitez pas. Vous avez on a tous un smartphone aujourd'hui, hein. Vous prenez une photo, vous nous envoyez ça par mail jardin@rmc.fr Patrick l'analysera en direct.
On peut faire pour un petit coin de jardin, par exemple. Tiens, je sais pas Bien pourquoi sûr. Faire là-dedans avec à côté de cette plante. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, des idées.
Allez, on termine avec le coup de cœur de Patrick. On parlait tout à l'heure de permaculture. Maintenant, des livres liés à la permaculture.
Alors bon, le vrai coup de cœur, celui qui m'a bien plu, c'est Mon balcon en permaculture d'Hervé Chabert chez Terre Vivante. C'est un livre qui, au départ, ça traite un sujet totalement improbable parce que faire de la permaculture sur un balcon, vous vous dites, c'est complètement dingue, quoi. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui le fait vraiment. Et ce livre, il est intéressant. Pourquoi ? Bah parce que justement, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, il vous l'explique bien.
Est-ce que toi,
alors après,
tu m'entends ? Je t'entends
on aime tout petit. Balcon qui ressemble à celui d'Hervé Chabert, mais
ça va mieux, là.
C'est
mais
quand même intéressant parce qu'en fait, vous partez quand même sur un milieu qui est totalement artificiel pour créer un environnement petit peu naturel. Donc c'est un bon bouquin, c'est original, c'est sympa. Alors j'ai un demi coup de cœur, on va dire un coup de cœur, ouais, un peu mitigé sur Je m'initie à la permaculture de Blaise Leclerc, oui, chez Le Duc Pratique. C'est un livre d'initiation, mais qui dit que c'est un livre tout en images, etc. Franchement, les photos elles sont très moches, et non seulement elles sont très moches, mais en plus elles illustrent pas vraiment le propos. En revanche, bon, c'est vrai que il explique bien ce qu'est le principe de base avec les techniques pour débuter, comment travailler le sol, pailler, etc., fertiliser les engrais vers les autres. Bon, c'est plutôt presque un truc bio que un truc qu'un livre vraiment d'initiation à la permaculture. Bon, moyen. Puis alors vraiment celui qu'il faut pas acheter.
Le coup de gueule.
Et pourtant c'est dommage parce que c'est un des meilleurs éditeurs, c'est Delachaux et Niesley. C'est un livre collectif, mais c'est une traduction qui s'appelle Le basique de la permaculture. Alors ça c'est complètement, c'est le piège parce que le livre il vous en jette sur la couverture.
Ouais.
Elle est super. Mais alors, c'est bâclé, c'est mal bâclé. Fichu, c'est D'accord. pas bien, c'est, enfin, oui, c'est pas bien mis en page, les photos sont moches, donc c'est très décevant. Ne pas prendre, donc, le livre, Le basique de la permaculture.
Eh ben, écoutez, c'est rare, hein, que vous soyez aussi vindicatif, mais c'est comme ça, et c'est l'avis de Patrick. Patrick, on sera là, samedi prochain, 6h-7h, le jardin sur RMC.
De bonheur, de bonne humeur, les jardinières, je vous embrasse, et ma petite jardinière, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine.